France Musique.
Ne quittez pas, nous allons prendre votre appel.
Vous aimez Mozart ?
C'est lequel ?
Le dernier.
Ça veut dire que j'ai pas de pot avec la musique.
T'en fais aussi ?
Moi, plutôt crevé.
Vous croyez pas que c'est un peu réservé à une certaine élite ?
France Musique.
La 4 saisons n'est pas qu'une pizza.
Suzanne Gervais.
Il est très difficile d'avoir à choisir parmi les choses que l'on aime, parmi les choses que j'aime. Il en est une que je préfère, c'est la chanson. C'est ce qu'a dit un jour Barbara au journaliste, confiant juste après combien elle aimait la musique de Monsieur Gainsbourg, dont elle devinait derrière chaque chanson l'hypersensibilité. Hypersensible, provocateur, arriver à sortir des définitions, faire le pied de nez au carcan n'est pas donné à tous les artistes, quand bien même leurs choix musicaux, cinématographiques ou théâtraux mettent en avant ces oscillations intérieures. Notre invité l'est, assurément, sensible, voire hyper. Même si beaucoup l'arrangent du côté intello, Jeanne Balibar est comédienne, chanteuse et mélomane. Bonjour Jeanne Balibar.
Bonjour.
On commence ce petit voyage musical ensemble en plein air, dans les bois, avec l'appel de l'oiseau de Wagner. C'est un extrait de Siegfried et la voix cristalline de John Sutherland sous la direction de Georges Solti, enregistrement de 1964. Vous aviez confié en interview que vous aviez le goût des activités en plein air. C'est ce côté champêtre peut-être qui vous plaît dans cet air précisément ?
Alors, en fait, pas du tout. Parce qu'en fait, j'ai découvert cet air quand j'ai eu la chance d'assister à plusieurs années de suite au Ring à Bayreuth. Parce que c'est l'homme avec lequel je vivais, Franck Astorf, qui avait fait la mise en scène. Et on peut pas dire... Bon, parce que Siegfried, avant, c'est pas une œuvre que je connaissais. Je m'étais pas spécialement passionnée pour ce moment-là... Du Ring, enfin des Nibelungen, et j'ai découvert Siegfried dans sa mise en scène à lui qui rendait l'œuvre moins, enfin jusque là je la trouvais un peu ennuyeuse, mais dans sa mise en scène tout d'un coup elle devenait folle, et ce moment de l'oiseau m'a complètement transportée. Or, dans cette mise en scène, ça se passait à Alexanderplatz, cette scène,
et pas du tout
dans les bois, voilà.
Je vois. Quand est-ce que vous avez commencé à chanter ?
À chanter, vous voulez dire dans la vraie vie ou sur une scène ?
Dans la vraie vie.
Dans la vraie vie, toute petite, comme je le dis dans une des chansons de mon disque, dans les voitures, quand j'étais petite, avec mes cousines, on chantait énormément. Et c'est marrant, j'ai un autre souvenir d'ailleurs avec mon grand-père maternel, où j'étais à l'arrière et je chantais, et il m'avait dit, mais dis donc, t'as un sacré répertoire. Je retenais beaucoup de chansons quand j'étais enfant.
Ça, c'est dans la vraie vie et dans votre métier. Est-ce que vous sauriez dire comment peut-être le chant a pu modifier votre rapport à votre voix parlée, votre voix de comédienne ? Est-ce qu'il y a eu une incidence
ou... Oui, je saurais tout à fait le dire. La vérité, c'est que j'ai totalement raté ma vocation et que je suis totalement passée à côté de ma vie. Parce que ce que j'aurais dû faire, c'est chanteuse lyrique. Mais ça n'a strictement aucune importance, dans la mesure où je pense qu'on fait sa vie avec les vies qu'on n'a pas faites. Et donc, la musique s'est tout de suite inscrite très, très fortement dans mon jeu d'actrice. C'était même au début, quand j'ai commencé le théâtre, au cours Florent, après au conservatoire, un défaut. Il fallait que je lutte contre cette manie de transformer tous les textes en chansons, en fait. Et j'ai eu la chance de rencontrer... je me faisais la réflexion hier avec un ami. Moi, j'ai eu la chance démente de rencontrer 5 grands génies artistes, pédagogues dans ma vie. C'est énorme. et au conservatoire Madeleine Marion, qui était une actrice extraordinaire d'Antoine Vitesse, et qui savait justement travailler le passage entre la voix très concrète, très parlée, et la grande musicalisation des textes. Vitesse a d'ailleurs écrit sur son art de faire ça. Et j'ai eu la chance de rencontrer Madeleine Marion, qui a su m'aider à naviguer à l'intérieur de cette disposition.
Ces vies qu'on n'a pas eues, cette vie de chanteuse lyrique, donc que vous n'avez pas eue, peut-être que vous auriez pu chanter Carmen. En vain pour éviter les réponses amères, en vain tu mêleras. Cela ne sert à rien, les cartes sont sincères et ne mentiront pas. Nous sommes en plein troisième acte de Carmen, interprété ici par Tatiana Troyanos. Nous sommes dans les montagnes, dans le repère des contrebandiers et la tension monte. On tire les cartes pour lire l'avenir. Alors j'ai trouvé cette citation d'un certain Nietzsche, grand défenseur de la musique de Bizet, qui a dit « Cette œuvre vaut pour moi un voyage en Espagne. C'est un exercice de séduction irrésistible, satanique, ironiquement provoquant. C'est ainsi que les anciens imaginaient Eros. » Jeanne Balibar, est-ce que c'est toute la réflexion sur l'intime, sur la passion et le drame amoureux qui vous plaît dans Carmen ?
Oui, tout à fait. Je ne peux pas entendre cet air sans pleurer, par exemple. C'est étrange. Mais c'est aussi parce que je vous ai demandé de passer cet extrait, parce que je l'ai entendu, Tatiana Troyanos, quand j'avais 3 ans. Au Teatro Massimo à Palerme. En fait, mes parents m'avaient emmenée en vacances et puis elle passait et ils voulaient absolument la voir et ils se sont dit on peut pas laisser la petite de 3 ans à l'hôtel toute seule. Bon, tant pis, on va l'emmener, elle dormira. Et puis j'ai pas dormi une seule seconde et je crois que je me souviens en fait de cette représentation. Je suis pas complètement sûre parce que c'est possible que ça se soit mêlé à d'autres souvenirs d'opéra. Non, plutôt à d'autres souvenirs, parce que je me vois avec mon père en train d'aller voir la fosse d'orchestre, les musiciens. Bon, est-ce que c'est vraiment ce jour-là ? Parce que je l'ai fait après beaucoup avec mes parents. La musique classique étant un lieu d'amour très, très fort dans le trio que je forme avec mes parents. Mais je pense en effet que ce lieu de Eros et Thanatos, hein, pour aller vite et dire droit au cliché, c'est en effet la source de mon lien à Carmen, mais peut-être à l'opéra en général d'ailleurs. Parce que dans l'enfance, j'avais beaucoup de 33 tours que mes parents m'achetaient au puce. On allait spécialement au puce, mais quand j'étais toute petite, 3, 4, 5 ans, acheter des 33 tours avec des extraits d'opéra en français, il y avait ça à l'époque. Mmh. Et j'avais Tosca, Rigoletto...
En français.
En français, ouais, mais chanté par de très grands...
Oui, il y avait des
Gabriel
traductions.
Gabriel Baquier, tout ça.
À la mode.
Et bah, à chaque fois, c'était ça, hein, l'amour et la mort. Et la jalousie. Je crois que l'opéra, pour moi, est très très lié à la passion de la jalousie. Et que ça me parle.
Tatiana Troyanos, les grandes chanteuses lyriques comme ça, c'est vous fascine. Vous nous avez dit en préparant l'émission, si c'est pas possible de trouver l'enregistrement avec Troyanos, nous prendrons Callas, forcément. En vous excusant presque.
Ouais. Bah ça c'est une veine de mon goût artistique. C'est la transe tragique. C'est une veine avec laquelle je suis toujours obligée de me battre pour pas y retourner toujours. Donc, par exemple, ce disque que je viens de faire d'ici là tout l'été, clairement un moment où j'avais besoin de sortir de ça. Un anti-trans tragique. mais c'est une veine de moi, oui, de ce que je cherche en art.
France Musique, Suzanne Gervais.
Chanter dans les voitures, assis à leurs fenêtres, cahoter sous les hêtres, rouler à vive allure, se réveiller trop tôt, siffloter tête nue, sur des routes pentues, qu'on dévale à vélo. Sauter à trampoline, sauter de la balançoire, rigoler dans le noir, adorer ses cousines, embrasser en cachette quelqu'un d'imaginaire, sur l'oreiller lunaire, il a des yeux noisettes.
Un inventaire de petits plaisirs dans Encore Encore, Jeanne Balibar, un extrait de votre nouvel album. D'ici là, tout l'été, il sort le 9 juin. Comment est-ce que vous construisez un album, l'ordre des chansons? Est-ce qu'il y a une narration un petit peu sous-jacente à laquelle vous pensez ou pas spécialement? Une trame peut-être?
Alors, je pense qu'il y a une narration sous-jacente, mais qu'elle est inconsciente, enfin en partie. Là, c'est le mixeur du disque, Boris Wilsdorf du groupe Einschotzen de Neubauten, qui a trouvé l'ordre. Et moi, je savais pas que c'était lui. J'ai dit, mais qui a fait cet ordre génial? Et d'une certaine manière, c'est normal que ce soit le mixeur finalement qui trouve l'ordre. Mais enfin, oui, il y a un fil quand même dans le disque.
Beethoven, le premier mouvement Allegro moderato du 4e concerto pour piano par Glenn Gould. Leonard Bernstein dirige le New York Philharmonic. Nous sommes à la fin du mouvement, une parenthèse, en pleine cadence virtuose du piano. Ce sont ces minutes et cette cadence précisément, Jeanne Balibar, que vous vouliez entendre avec nous aujourd'hui?
Bah, tout d'un coup, je me demande en fait...
Si c'était ce passage-là?
C'est possible, mais j'ai oublié pourquoi.
En tout cas, pourquoi ce concerto? Ce 4e concerto de Beethoven. Vous l'écoutez souvent?
Oui, je l'écoute souvent. Ouais, je l'écoute souvent.
En entier, d'un bout à l'autre?
Oui, avec une prédilection pour le premier et le deuxième mouvement. Bon, le deuxième mouvement...
On va entendre un petit extrait du deuxième mouvement là-dedans. Dans quelques instants, j'ai une question juste avant. On a un concerto après deux airs d'opéra. Est-ce que vous aimez tout autant la musique sans parole? Je veux dire, la musique purement instrumentale?
Je raffole de la musique purement instrumentale. Et même dans les opéras, j'ai une passion particulière pour le contre-chant, en fait. Ou dans les leaders, pour l'accompagnement. C'est quelque chose que j'écoute énormément dans la musique. Et ouais, je sais pas, je me demande même si c'est pas ce qui me procure le plus d'émotion quand il y a des paroles, ce que font les instruments aussi. Mais oui, j'ai beaucoup, beaucoup de goût pour la musique instrumentale. J'ai beaucoup, beaucoup de goût pour les moments qui nous libèrent des mots.
Ça m'interpelle ce que vous dites sur ce goût pour le contre-chant. Je me demande tout à coup si au cinéma, au théâtre, il y aura un équivalent de ce contre-chant au discours. Enfin, le contre-chant, c'est du vocabulaire cinématographique. Mais
Non, le contre-chant, C-H-A-N-T, oui. C'est du vocabulaire musical. Oui. Et oui, en effet, au cinéma et au théâtre, il y a, je dirais que l'équivalent du contre-chant C-H-A-N-T,
oui, A-N-T, pas A-N-T.
C'est pas le contre-chant C-H-A-M-P, c'est le hors-chant. Oui. Il y a des cinéastes qui sont et aussi des metteurs en scène de théâtre qui sont des virtuoses du hors-champ. Et ça, c'est aussi quelque chose, je pense à Kiarostami, par exemple, parmi tant d'autres. Je raffole du hors-champ, oui, ça c'est vrai.
Allez, on écoute un petit bout pour se faire plaisir, quelques secondes du deuxième mouvement de ce quatrième concerto. Devinez la voix de Glenn Gould au début de cet extrait du deuxième mouvement du quatrième concerto de Beethoven. Glenn Gould, quel artiste qui chérissait sa solitude, on le sait, il s'est retiré de la scène, il chérissait, il le disait, l'anonymat aussi. Pour vous, Jeanne Balibar, la solitude, c'est important? C'est un moment où vous écoutez de la musique quand vous êtes seule?
Ah oui, beaucoup.
Et vous aimez découvrir une musique dont vous ne savez rien, dont vous ignorez tout, vous lancez comme ça à l'aveugle dans une écoute?
Ah oui. Ah oui, j'adore ça. Mais parfois, ça demande du temps. Parfois, ça veut dire y retourner plusieurs fois avant de comprendre à quel endroit on s'accroche à une musique qu'on ne connaît pas. Et on n'est pas toujours en disposition ou on n'a pas toujours le temps de faire ça, mais... Quand ça arrive, c'est une illumination, en fait.
Un moment de grâce, parfois. Jeanne Balibar, je rappelle donc la sortie le 9 juin de ce nouvel album. D'ici là, tout l'été, on va se quitter avec une des plus belles chansons, peut-être, de Johnny Cash. Auparavant, je remercie l'équipe de cette émission. Dimitris Capolan, Tahar Bouklifa à la réalisation, Maud Nouri et Julia Macarez. Alors le blues, pour finir, la mélancolie, c'est Hurt, la dernière chanson interprétée par Johnny Cash quelques mois avant sa mort, en septembre 2003. Il y a un magnifique clip, je crois que vous le connaissez, en clair-obscur, un petit peu prémonitoire, il y a un côté un petit peu christique dans ce clip avec cette voix qui vacille. Johnny Cash est malade. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette chanson? Pourquoi vous avez voulu l'entendre avec nous?
À vrai dire, j'aurais pu choisir quasiment n'importe laquelle des chansons de Johnny Cash.
Mais celle-ci n'est pas n'importe laquelle.
Non, c'est pas n'importe laquelle, mais c'est pas... Bon, elle est déchirante et sublime, mais ce que la voix de Johnny Cash, c'est pour moi quelque chose d'inégalable. C'est le contraire de Callas, justement. C'est-à-dire que c'est comme quelqu'un qui chante comme on parlerait, mais c'est... Ça vous brise le cœur, sans, comme s'il n'y avait aucun effet pour le faire, en fait.
I wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else. I am still right here. What have I become? My sweetest friend. Everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down. I will make you hurt. If I could start again, a million miles. would find a way.
À réécouter sur francemusique.fr.